Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, notre coup de cœur ciné qui est consacré au film Dossier 137 avec Léa Drucker. Dominique Moll, le réalisateur, sera avec nous dans une poignée de secondes. Des coups de cœur télé, il y en a cette semaine avec, pour commencer, déjà Désenchanté qui revient pour une deuxième semaine et les deux derniers épisodes. Vous allez enfin avoir le dénouement. Les jeunes comédiennes Nelly Gann et Capucine Mallard seront nos invités ainsi que Marie Desnarnaud qui sera avec nous. On va également parler de Ici tout commence avec la toute nouvelle famille qui est arrivée dans la série il y a quelques jours. Aurélie Vanek sera avec nous pour tout nous dire sur son personnage. On va parler également de la série Extra Lucide qui débarque cette semaine sur Ciné Plus OCS. À cette occasion, le réalisateur Bruno Merle accompagné de ses deux comédiennes Sabrina Ouazani et Camille Rutherford qui seront nos invités exceptionnels. Elle a quitté Demain nous appartient il y a quelques jours pour un break. On va lui demander justement, voilà, ses projets et qu'est-ce qui se passe justement pour Elisa et Zénine. Elle sera notre invitée pour nous parler évidemment de son rôle de Camille, de ses meilleurs souvenirs et de ses projets qui l'attendent. Et puis en exclu podcast, nous aurons le grand plaisir de recevoir la Bible du rap. Oui, il incarne Planète Rap depuis maintenant des années et le format Planète Rap arrive en format court sur France 4 avec Fred Musa aux commandes. Fred Musa sera notre invité exceptionnel pour en parler. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti avec tout de suite notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film de Dominique Moll, Dossier 137. Dominique est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On va se replonger un peu effectivement dans la fin de la décennie 2010, à la période des Gilets jaunes, dans cette histoire de ce dossier 137. Et surtout avec un casting magnifique, Léa Drucker, Jonathan Turnbull. Enfin, il y a vraiment du très très beau monde dans ce film. On va déjà, avant de rentrer dans l'histoire même du film, parler un peu de la genèse. Comment est monté ce projet?
Bon, mon film précédent, La Nuit du 12, c'était déjà une enquête policière. Et ça m'a donné envie de continuer l'exploration de l'institution policière. Et la police des polices est une institution qui m'intrigue depuis un certain temps. D'autant plus que, autant sur la PJ, il y a beaucoup de films, beaucoup de romans, tout ce qu'on veut. Sur l'IGPN, il n'y a rien parce que c'est une institution, voilà, assez inaccessible. Ce qui a d'autant plus stimulé ma curiosité. Donc j'ai commencé à faire des recherches dessus et très vite je savais que je voulais lier ça à une affaire de maintien de l'ordre plutôt qu'à une affaire de policiers corrompus, enfin les ripoux comme on les appelle, parce que le maintien de l'ordre touche aussi au rapport police-citoyen, donc à la démocratie, donc ça m'intéressait. Et j'avais envie de la situer au moment des Gilets jaunes, enfin au tout début d'ailleurs des manifestations des Gilets jaunes, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, c'était en 2022 ou 2023, donc à une période où on en parlait plus. C'est comme si ça avait jamais existé, aussi parce que le Covid était passé par là. Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est quand même très curieux, ce mouvement qui a secoué le pouvoir, que personne n'a vu venir, qui a pris tout le monde de court, qui n'a jamais existé dans cette forme, qui fait partie de l'histoire française et dont on parle plus. Donc j'avais envie de m'emparer ça, mais tout ça quand même à travers toujours un film de genre, une enquête policière où l'enquêtrice essaye d'établir la vérité dans ce qui s'est passé, avec son lot de tensions, de suspense et de rebondissements.
C'est vrai que c'est très malin en fait de lier une enquête sur l'IGPN documentée vraiment sur ce film au moment des Gilets jaunes, parce que jamais je crois l'IGPN a eu autant de dossiers à traiter pendant les émeutes et pendant les Gilets jaunes. Et en plus le faire par le prisme d'une femme, j'ai trouvé ça très très bien d'avoir justement cette héroïne Stéphanie. Il y a beaucoup de scènes de garde à vue, beaucoup de scènes d'interrogatoire qui sont longues, qui sont très documentées, j'ai trouvé là-dessus, et puis même les scènes de manifestation sont très réalistes. Je sais pas s'il y a eu si pour le coup il y a des scènes avec des images qui ont été prises pendant des vraies manifestations, ou si vraiment tout a été tourné pour le film.
Alors déjà, c'est vrai qu'il y a eu une grosse phase de recherche, de documentation, de rencontres, d'immersion aussi de quelques jours au sein de l'IGPN, ce qui était absolument primordial. Sur les images de manifestations qu'on voit dans le film, enfin surtout à travers le biais de vidéos, hein, de vidéos de caméras de surveillance ou de smartphones tournés par les manifestants, je dirais la majeure partie c'est des choses qu'on a tournées nous, enfin qu'on a mis en scène nous, mais c'est parfois mélangé à des images d'archives de journalistes qui ont tourné pendant le 8 décembre de 2018. J'avais passé beaucoup de temps à dérocher toutes leurs vidéos pour choisir les moments qui me paraissaient intéressants et qu'on pouvait faire répondre à des choses qu'on avait tournées nous.
Évidemment, tout va se compliquer quand Stéphanie va avoir le dossier 137 qui va arriver sur son bureau et qui va pas être une affaire comme les autres finalement.
Oui, enfin au début ça l'est. Elle essaye de faire son travail d'enquêtrice de façon très objective, enfin on s'en, comme on dit, à charge et à décharge, en s'en tenant qu'au fait et en essayant de pas se laisser envahir par des ressentis ou par la sympathie ou antipathie qu'elle peut ressentir pour les uns et pour les autres. Et puis elle sait dès le début que la famille de manifestants est originaire vient de la même ville, Saint-Dizier en Haute-Marne, dont elle est originaire, ce qui n'est pas un problème en soi, mais après par la suite, elle va se rendre compte que il y a un lien qui va un peu au-delà de cette origine géographique. Et là, les choses vont un peu bouger, enfin dans le sens où, le film interroge la question de l'objectivité et du biais. Enfin, est-ce que, parce que comme on reproche beaucoup à l'IGPN de ne pas être impartial parce que c'est des policiers qui enquêtent sur des policiers, la question c'est aussi qu'est-ce qui se passe si une enquêtrice a aussi un lien avec une famille qui porte plainte. Est-ce que ça constitue un biais aussi? Est-ce que ça va changer son regard? Et c'est en ça que sa position va évoluer au fur et à mesure du film.
Ouais, mais le fait de le faire à travers le personnage de Léa, qui est quelqu'un, je trouve, de très expressif, et que ça donne une humanité vraiment à cette IGPN qui est souvent, je vais pas dire une brigade fantôme, mais c'est presque effectivement Secret Défense. Il y a foule de séries policières. Il n'y a jamais une série qui est concentrée uniquement sur l'IGPN, par exemple, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que, enfin, on les voit parfois dans une scène, dans un film, où souvent c'est des gens en costard-cravate qui sont intraitables et autoritaires, etc. Alors que...
On n'a jamais eu une série qui s'appelait IGPN, pour le coup, où on suit une enquête vraiment sur des policiers. On n'a jamais eu de série policière de genre, c'est ça qui est intéressant, là, justement.
Oui, enfin, ce que vous disiez sur l'humanité de Léa est très juste. parce qu'elle porte cette humanité en elle, mais de toute façon, quand on fait un film, quand on raconte une histoire, ça passe par les personnages, par l'identification et donc par l'humanité des personnages. Si on s'attache pas au minimum aux personnages, si on n'a pas envie de découvrir avec eux ce qui s'est passé, qui est impliqué dans telle ou telle affaire, le film ne fonctionne pas. Donc il faut construire sa narration, son histoire, son film à partir des personnages.
Pour être au plus près de la véracité du propos, est-ce que vous avez pu rencontrer justement des personnes qui travaillent dans l'IFPN, qui ont pu vous témoigner peut-être certaines choses, certains ressentis ou certaines actions qu'ils ont pu mener?
Oui. Enfin, c'était d'ailleurs indispensable pour moi de pouvoir faire une immersion. Donc, j'ai eu la chance, enfin, grâce aussi au succès de La Nuit du 12, d'obtenir l'autorisation de passer quelques jours à l'IGPN. Donc, de voir les enquêtrices et les enquêteurs travailler, mener des auditions, etc. Et rester aussi en lien avec certains d'entre elles et d'entre eux pour pouvoir par la suite aussi leur poser des questions, et le fait de pouvoir échanger avec eux sur leur ressenti, sur leur difficulté du travail. Enfin, Léa m'avait demandé si elle pouvait rencontrer des enquêtrices, donc j'ai organisé une rencontre et ça c'était très très important pour elle et pour notre travail en commun, puisque une des questions qu'elle leur a demandé par exemple, c'est voilà, moi comédienne je travaille sur l'émotion, mais vous enquêtrice à l'IGPN, comment vous gérez vos émotions? Enfin, quand vous êtes face à un policier qui vous agace parce qu'il est arrogant, ou un autre qui est dont vous sentez qu'il est en plein désarroi parce qu'il est mis en cause, ou une famille qui est en plein désarroi aussi parce que un membre de la famille a été grièvement blessé, vous ressentez forcément des choses. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Et elles ont dit, bah, bien sûr qu'on ressent des choses, mais on ne peut pas les montrer et on ne peut pas se laisser envahir par ce ressenti ou par ses émotions, parce que ce qui compte c'est les faits, rien que les faits. Donc il faut mettre un couvercle dessus, et ça a été très important comme ligne de conduite, enfin pour la direction d'acteur et pour Léa, de ça, voilà, il fallait que le spectateur sente qu'il se passe plein de choses en elle, mais qu'elle avait pas le droit de les laisser ressortir, mais il fallait quand même qu'on les perçoive, et c'est vrai que Léa est assez magistrale dans cet exercice.
C'est vrai, vous allez voir, en tout cas, voilà, le personnage de Stéphanie va enquêter sur un jeune garçon qui a été soi-disant grièvement blessé, en tout cas par des policiers, lors d'une manifestation. On va voir comment cette enquête, en tout cas, va tourner. C'est très très bien ficelé, vous allez voir, en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, le film dure 2 heures, vous ne les voyez pas passer. Et moi, je vous invite à découvrir, en tout cas, Dossier 137, mercredi, au cinéma, le nouveau film de Dominique Moll. On pense déjà à la suite, Dominique, est-ce qu'il y a déjà un autre projet dans les tuyaux?
Non, je suis un peu monotache, donc là je finis d'accompagner le film jusqu'à la sortie, un peu au-delà, et après je commencerai à explorer des nouvelles pistes pour un nouveau film.
Eh bien, Dossier 137, c'est mercredi en cinéma et en salle, à ne pas manquer évidemment. On termine avec la bande-annonce. Merci Dominique, à bientôt.
Merci Alain, merci beaucoup.
Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers.
C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
Les flics, là, qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait.
Mais tu baisses d'un ton, là.
Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. On
nous a dit que la République était en danger.
On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents.
Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue.
Le gouvernement était en panique.
Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez?
Mais sur les images, on voit pas bien.
Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, nous aurons le plaisir de recevoir Elisa et Zedine. Notre spécial Désenchanté avec Marie Desnarnaud, Capucine Mallard et Nelly Gann et Aurélie Vanek. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Petite fille dans grande maison, cherche papa, il est pas là. Maman s'occupe des garçons, petite fille dit que ça va. Les dimanches matins sont longs, prier Dieu ça sert à quoi? Dictée, Game Boy, télévision, demain école c'est la pression. Pourquoi ça me fait bizarre de rentrer? Pourquoi ça me fout le cafard? Rien d'y penser, j'suis pas chez moi. À la maison, y'a des trucs qui tombent pas rond. vis dans petit appart, Paris 9 et ligne 4. Y'a mes copines sur le canapé, c'est pas un salon, c'est un squat. Les dimanches soirs, je suis solo, je pense à des trucs pas rigolo. En dépression sur mon vélo, je me répète que le monde est beau. Pourquoi ça me fait bizarre de rentrer? Pourquoi ça me fout le cafard? Rien d'y penser. Jamais chez moi, à la maison. Y'a des trucs qui tournent pas rond. Moi je veux construire ma maison. J'y mettrai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai. Silence qui en disent long. Moi je veux construire ma maison. J'y mettrai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Ici, tout commence. Régulièrement, nous recevons les comédiens de la série et c'est une petite nouvelle qui vient d'arriver dans une toute nouvelle famille depuis 2 semaines à l'antenne. Aurélie Vanek est notre invitée. Bonjour Aurélie.
Bonjour Alain.
Alors, petite nouvelle dans Ici, tout commence, mais bon, bien aguerri quand même à la série quotidienne. Quel bonheur de te voir dans un nouveau rôle. Exit Ninon Chaumette. On a découvert déjà depuis 2 semaines Jeanne Sanko-Jourdain, la fille d'Andrea. Et il faut dire que Jeanne, comment tu la définirais toi déjà pour commencer Aurélie, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes qui viennent de passer?
Alors Jeanne, c'est un personnage assez solaire, qui a quand même un sacré tempérament, mais elle arrondit toujours les angles. Donc c'est quelqu'un qui va pas se laisser marcher sur les pieds, et pour autant, qui restera quand même dans une forme de douceur. C'est un chouette personnage à incarner, parce que du coup, il y a du potentiel dans le relationnel. Et en même temps, il y a un peu de cette Ninon, on pourrait dire que c'est un peu Ninon 20 ans plus tard, quoi, qui a su un peu mettre de l'eau dans son vin. C'est un vraiment chouette personnage qui évolue au sein d'une super famille.
Ouais, parce que Ninon était tempétueuse. Là, Jeanne, elle est plus pragmatique, je dirais, aussi. Et puis, il faut dire que quand même, ce qui ne l'aide pas dans tout ça, c'est qu'elle travaille en famille. Et on sait que travailler en famille, c'est ce qu'il y a peut-être de plus dur entre sa mère, son frère handicapé, son mari. Tout le monde converge un peu autour d'elle, justement, hein, dans cet hôtel d'application.
Oui, moi, je la vois un peu comme un pivot, pas dans le sens où c'est un personnage plus important que les autres, pas du tout, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui va faire le lien entre les différents personnages qui peuvent être plus ou moins sombres, plus ou moins colériques. Et elle, comme c'est un personnage de lien et elle préfère apaiser les conflits que les attiser, elle passe son temps à essayer de, encore une fois, d'arrondir les angles, de rendre le dialogue possible au sein de la famille. Et aussi en dehors, puisqu'on va la voir interagir avec d'autres personnages. Donc ce sera pas toujours du miel, hein, parce que elle sait aussi défendre ses intérêts et porter sa voix. Mais malgré tout, elle reste quand même toujours assez nuancée et c'est un personnage qui réfléchit avant d'agir, quoi.
Alors le casting est dingue dans cette famille autour de toi, entre Guillaume Cramoisan, Narcisse Mam qu'on adore, évidemment qu'on retrouve après la série Je te promets, et puis Marie-Christine Adam. Je crois que là tous les fans de Sous le soleil sont tellement heureux de la revoir dans un nouveau rôle comme ça et au quotidien.
Ouais.
C'est vrai que c'est une famille qui recelait beaucoup de secrets, qu'on est en train de percer les uns après les autres, et c'est vrai que Tessier est arrivé un peu là-dedans en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière, en voulant acheter cet hôtel, parce que c'est l'hôtel d'application rêvé pour lui évidemment, et entre Clotilde, évidemment, qu'on va découvrir plein de choses aussi qui n'est pas pour rien dans l'accident d'Hector. Franchement, entre tout ça, elle va tomber de haut, je crois, Jeanne, parce que elle n'est pas au courant de tout.
Non, effectivement, il y a des secrets révélés au sein de la famille et puis dans les liens avec la famille Armand. Donc ça va mettre un peu de piquant dans tout ça et puis un peu de relief dans les relations. Effectivement, on vient de découvrir que Clotilde est responsable de l'accident d'Hector et donc de son handicap et qu'elle ne l'avait jamais dit. Donc on va découvrir aussi pourquoi. Donc là, c'est toute l'arche qui se déroule autour d'elle. Effectivement, il y a un casting fabuleux et moi, je suis tellement heureuse d'atterrir dans cette famille parce que c'est un vrai kiff de tourner avec tous ces membres de ma famille et puis d'avoir la chance chance de tourner aussi avec le personnage de TC, de Clotilde et tous ces personnages-là, parce qu'en fait, finalement, j'ai beaucoup d'interactions avec des personnages différents. Et ça, c'est la grande chance. Et puis, au fur et à mesure que le personnage évolue, elle va prendre des places différentes et donc avoir la chance de vivre des situations différentes avec des personnages différents.
Oui, parce que là, c'est que le début, évidemment, puisque sa mère essaye, en tout cas, de maintenir. Elle veut garder son hôtel, elle ne veut pas vendre. Donc, on va découvrir, ça va être très compliqué, parce qu'elle va se retrouver au pied du mur de tout ça. Et pactiser avec Tessier, c'est toujours compliqué. Donc, ça va laisser, en tout cas, de beaux épisodes pour nous à venir, ça c'est sûr. T'as hésité ou pas pour prendre ce rôle de Jeanne, ou t'as été tout de suite emballée à l'idée de rejoindre ce beau paquebot qui est ici de commencer?
Déjà, j'étais assez séduite par le personnage tel qu'il était décrit. Moi, j'ai eu un descriptif de personnage très poussé, très développé, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, j'avais déjà une idée et je voyais bien que les auteurs avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire de ce personnage. Et j'ai été absolument séduite par le fait que c'était un personnage solaire dans la joie. En fait, c'est assez rare de voir ce genre de personnage-là où on peut rayonner. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi de rayonner des good vibes. Et du coup, ben, dans ce personnage-là, tout d'un coup, je voyais le potentiel et incarner un personnage quotidien, parce que donc ça, forcément, ça nous imprègne.
Et tu sais ce que c'est, en plus.
Et je sais ce que c'est, absolument, absolument. Mais du coup, arriver avec ce personnage pétillant, j'ai envie de dire, ça m'a séduite. Après, il y avait effectivement tout le casting autour de ce personnage qui donnait envie de relancer la quotidienne. Et puis, j'avais entendu beaucoup de bien de cette quotidienne-là. Et j'ai plein de copains qui sont techniciens sur la série et qui étaient très heureux de travailler sur cette série. Et en général, c'est bon signe, parce que quand on signe sur un contrat aussi long, c'est important de savoir qu'il y a de la joie à travailler, quoi.
Eh ben
donc
oui.
j'ai pas beaucoup hésité.
Bah c'est clair, et puis c'est vrai que on se fait vite le fait d'avoir tourné sur une quotidienne pendant plusieurs années. Tu t'es vite fait au rythme. Est-ce que t'as vu quelques changements depuis? Comment ça s'est passé ton arrivée? En tout cas, est-ce que tu t'es fait vite au rythme?
Ben, j'étais pas très inquiète, parce que effectivement j'étais rodée à l'exercice, mais malgré tout ça faisait quand même 12 ans que j'avais plus travaillé de cette manière-là. Et en fait ben, c'est comme le vélo, ça revient très vite. Donc une fois que j'avais bien bossé mes textes au départ pour pas être décontenancée par tout ce qu'il fallait intégrer, et en fait c'était comme le vélo, quoi. Donc non c'est un vrai kiff.
Et arrivé pour les 5 ans de la série, quand même, c'est beau. Vous êtes arrivé avec cette nouvelle famille pour les 5 ans de la série. C'est vraiment un tout nouveau départ, avec un très gros beau décor que vous avez investi pour le coup avec cette famille. Et c'est vrai que bah voilà, au bout de 5 ans, la série a su se renouveler, et c'est chouette de voir encore tous ces personnages graviter, tous ces jeunes aussi pour le coup qui vont défiler, j'imagine, à l'hôtel d'application.
Eh ben oui, alors bon, ça on peut pas encore trop en parler, parce qu'il va y avoir des remous et ça va pas forcément se faire facilement.
Mais il va y avoir des vagues.
Mais il va y avoir des vagues, parce que bon, c'est un peu le jeu aussi. Mais oui, bah c'est un super cadeau qu'on nous fait de nous offrir un nouveau décor, une arrivée en trompette. C'est une grande chance.
C'est super beau en tout cas. Les premières images, là, waouh.
Ouais, c'est magnifique. Et c'est hyper agréable de tourner dans cet endroit-là, parce que ça respire la douceur. En fait, c'est un endroit qui est très doux.
Bon, ben on a hâte de découvrir la suite de tout ça. En tout cas, merci beaucoup Aurélie d'avoir été avec nous. Et puis on suit, hein, évidemment. On n'aura pas une bouchée ici. Tout commence du lundi au vendredi. C'est à 18h35 sur TF1, juste après la Starac. Merci beaucoup Aurélie, à bientôt.
À très bientôt.
Emmanuel, on est début novembre. On n'a toujours pas d'hôtel d'application.
Il serait peut-être temps de concrétiser le projet, non?
Prépare le champagne, parce que tu vas vouloir l'acheter dès que tu le verras. Je peux d'ores et déjà vous faire une offre.
Il n'est pas question que nous vendions. L'hôtel Jourdain restera dans notre famille, quoi qu'il en coûte.
Jourdain? Ismaël est venu me voir il y a quelques jours à l'infirmerie. C'est le nom de sa mère, c'est dans son dossier médical.
Bonjour grand-mère. Je vais me servir d'Ismaël. Je vais les faire plier grâce à lui. Et si je vous disais que je ne veux plus l'acheter? Je vous propose une collaboration, main dans la main.
On est trois à avoir des parts dans cet hôtel. Mon frère, ma mère et moi. Donc, je décide rien toute seule.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Désenchanté. Vous avez vu les deux premiers épisodes la semaine dernière. Et les petits vénards, ou les petits malins. Vous avez peut-être déjà vu la suite sur France.tv. En attendant, on n'est pas au bout de nos surprises avec nos Désenchantés. Et on a la chance d'avoir justement nos deux jeunes comédiennes qui sont avec nous. Avec Nelly Gann. Bonjour Nelly Gann, qu'on a vu dans 11 il n'y a pas longtemps justement sur France.tv aussi. Bonjour.
Enchantée.
Merci d'être là. Vous l'avez peut-être vu dans Anaon sur Prime aussi. Déjà de David Oureg. l'impression qu'avec David, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Il va encore se passer beaucoup de choses. On va en parler. Capucine Malard est avec nous. Bonjour Capucine.
Enchantée aussi.
Alors, on est avec Angélique jeune. On avait justement Angélique adulte lundi dernier. Sarah Leroy, évidemment, c'est le personnage dont on a tant parlé lundi dernier, Nelly. Et il faut dire que franchement, c'est une histoire qui nous a bluffé. On a laissé les téléspectateurs dans un suspense insoutenable avec la mort d'Eric qui a chuté de la falaise à la fin de l'épisode 2. On a appris qu'Angélique s'était fait violer par Eric. On a appris beaucoup de choses, mais je crois que les téléspectateurs sont pas au bout de leur surprise. Quand vous avez lu le scénario, est-ce que vous vous attendiez à ça?
Moi, avant de lire le scénario, j'ai lu le livre en amont, avant même de savoir quel rôle j'allais jouer. Du coup, j'ai eu la fin de l'histoire avant de lire le scénario, et c'est le livre qui m'a d'abord donné envie de faire partie intégrante de cette histoire. Et en effet, je m'attendais pas à cette fin, et avec les différences qui ont été ajoutées dans le scénario, j'étais d'autant plus surprise et j'étais très heureuse de voir jusqu'où portait cette histoire.
Pour toi ?
Tout comme Capucine, après c'est vrai qu'au visionnage, pour le coup quand j'ai lu le livre et le scénario, je m'attendais pas du tout à ce résultat final parce que David a fait le choix d'un montage circulaire. Et je trouve qu'il en parle bien évidemment mieux que moi, mais ça donne une toute autre dimension du temps et de la surprise et des retournements de l'histoire. Et c'est vraiment fabuleux à voir.
Alors, il est vrai que ce montage, en fait, qui oscille sans arrêt entre 2025 et 1998-99, nous permet de s'immerger. Mais pour vous, comédienne, évidemment, vous n'avez pas tourné forcément en même temps que, même si mon petit noix m'a dit que vous glissiez de temps en temps un petit œil sur 2025, sur ce qui se passait. Mais c'est vrai que du coup, bah, vous découvrez complètement la série au moment où c'est tout monté, où c'est fini. Comment on réagit à ce moment-là, quand on voit justement son personnage incarné plus vieux, etc. Capucine.
C'est très impressionnant. Déjà, en effet, le montage a pris une partie très importante dans la série. Ce qu'il y avait sur le scénario et ce que David en a fait, c'est assez magique, les transitions qu'il a amenées. En effet, c'est lui qui a parlé des connexions qu'il a fait lui-même entre Angélique jeune et Angélique adulte, parce qu'avec Constance Labbé, on s'était vu une fois, on avait un peu discuté de la trajectoire du personnage. David nous a donné une trajectoire, des mots-clés, on s'est un peu posé quelques questions, mais c'est pas aller plus loin. Et avec Constance, on n'a pas échangé toutes les deux pour se dire qu'est-ce qu'on allait faire pour se ressembler. Et moi, on s'était dit, il y a quand même une grosse rupture entre l'Angélique jeune et l'Angélique adulte, donc on peut mettre cette distance-là. Et de voir au montage comment est-ce que David y donne vie à cette même Angélique, c'est assez magique, et avec tous les autres personnages, et de suivre Lilou et les autres jeunes dans une autre époque. Comme elle dit, les adultes, ils peuvent pas savoir ce qu'il y a dans la tête d'une jeune fille de 15 ans, et je trouve ça génial que ce soit eux aussi qui trouvent des petites infos, des petits indices dans cette histoire. Mais j'étais hyper heureuse de regarder Désenchantée et hyper touchée de voir ce qu'on avait créé avec toutes les filles, avec tous les Désenchantés, parce qu'on avait créé vraiment un groupe sur le plateau. Et nos jours se sont plutôt enchaînés au début. Après, en effet, il y a pu avoir des petits aperçus de 2026, fin de la période d'aujourd'hui, mais très touchant, et de revoir mes copines de la vraie vie là.
C'est chouette, très touchant. C'est vrai que c'est une série très touchante, et on n'est pas au bout de nos surprises. On le disait. Alors évidemment, toi, ton personnage, celui de Sarah Leroy, et plus en 1999, on va découvrir sa trajectoire. On n'est pas au bout de nos surprises aussi. C'est vrai que déjà dans les deux premiers, on se demande au fur et à mesure si Eric est une victime ou un bourreau. Et plus on s'approche, et effectivement vers la fin de cet épisode 2 qu'on a découvert, que c'est plutôt un bourreau qu'une victime. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. C'est vrai que cette disparition de Sarah Leroy pose bien des questions et a bouleversé cette bourgade de Bouville-sur-Mer. Et cette enquête, en tout cas, qui a suivi, et en même temps ce qui se passe de nos jours, les retrouvailles de ses deux sœurs crée beaucoup de retours de flamme. Ça va chauffer pour beaucoup de monde, en tout cas, dans cette suite, je crois on peut le dire. Mais ton personnage, je crois, a beaucoup ému déjà dans les deux premiers, et je crois que vous allez très certainement être au bord des larmes, en tout cas, dans les deux suivants, pour celui de Sarah. Comment tu te l'as approprié, toi, Nelligan ?
Par le livre. Je pense aussi que la partie de préparation de natation m'a beaucoup aidée, parce qu'elle a une force et une persévérance qui dépassent l'entendement. Donc me forcer à aller à ces répétitions, cette nage qui était franchement hyper compliquée, c'était en plus de la nage en eau libre, c'est d'autant plus sportif, il fallait que je fasse de l'endurance, de la rapidité, c'était 3 fois par semaine. La Corse, la mer, la Manche, j'ai vraiment bu beaucoup la tasse pendant ce tournage, et ça m'a fait voir, oui c'est ça, l'endurance, la persévérance de Sarah. Je pense que ça m'a aidé à visualiser le personnage.
Et on va découvrir évidemment pourquoi elle s'entraîne, pourquoi elle se réfugie aussi dans la natation au fur et à mesure de cette histoire. Quelle était la scène la plus difficile peut-être pour vous deux, ou peut-être la plus marrante? Parce que vous avez la même, ça serait drôle.
Je pense qu'on a la même. On a la même scène la plus difficile. Pour moi, c'est la scène de la baignoire. En fait, on l'a fait le premier jour de tournage. Et quand on est rentré le soir, Capucine m'a dit « Tu verras, on l'a pas ». Et le lendemain, on reçoit un message de David qui nous dit « On fait une retake ». Et donc, le troisième jour de tournage, on a refait la première scène. Donc, on avait une grosse pression. C'était quand même une retake à 15 000 €, il me semble. Et donc, ouais, c'est une sacrée pression quand il faut la refaire. Et que
avec ou sans glaçons?
Avec.
Aïe.
Non, c'était des faux glaçons quand même. C'était des
ah, quand même.
Ouais. Non, mais je pense que c'est la même pour toi, Capu.
Oui, pour moi, c'est la même. C'est un peu toujours la même chose. Moi, les scènes que je trouve les plus difficiles, c'est celles qui sont très représentatives de la série ou de ce que tu as envie de montrer et de donner au public. Et moi, quand j'ai lu cette séquence qui avait été agrandie et qui avait été retravaillée par David, pour moi elle était très importante et très centrale dans le récit, en tout cas des Désenchantés, parce qu'elle raconte beaucoup sur sa relation avec énormément sur sa relation avec Sarah, sur leur amitié très forte et qui va
et ce lien qui unit Désenchantés à la vie à la mort, quoi. C'est absolument fou, cette amitié.
Ce lien qui unit toutes ces filles, et moi ce qui me touche beaucoup, c'est cette solidarité féminine qui nous touche toujours au quotidien. Et là, de pouvoir la jouer, de la mettre en avant, c'était compliqué. Et donc, j'avais très envie de faire honneur à cette scène. Et donc, c'est compliqué. On tourne dans une salle de bain, on est dans un petit espace. C'était le premier jour de tournage. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire passer. Il faut faire des choix. Mais c'était super bien. Et la scène très marrante, c'est quand on a dû casser une voiture et qu'il y a des feux d'artifice qui partent. Je sais pas si c'était marrant, mais en tout cas, on avait toutes des étoiles dans les yeux pour les feux d'artifice.
Bon, vous allez voir en tout cas que Sarah Leroy n'a pas livré tous ses secrets. Est-elle morte? Est-elle encore vivante? Tous les champs du possible sont ouverts en tout cas pour cette suite. Une chose est sûre, c'est dans ce troisième et quatrième épisode que vous pouvez déjà découvrir sur France.tv et que vous allez découvrir sur France 2, vous aurez toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser et même au-delà. Vos projets pour la suite, Capucine? Il me semble qu'il y a un petit tournage dans un endroit assez paradisiaque du monde qui se profile à l'horizon.
Paradisiaque, je sais pas, en effet...
Non, c'est vrai, à Polynésie, c'est pas terrible.
En effet, il se pourrait que je parte en Polynésie française pour tourner une nouvelle série de David Wareig qui s'appelle Oro, ça va être super.
On a hâte de la découvrir déjà pour toi, Neigan. Après Zonze, est-ce qu'on va avoir peut-être une saison 2?
Pour Zonze, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je continue mon parcours d'étudiante puisque c'est ce que je suis avant tout. Mais oui, Zonze, il faudra demander aux producteurs et réalisateurs.
En tout cas, toi, t'aimerais?
Ah oui, bien sûr. Je pense que tout le monde aimerait.
On avait reçu Roman Nodwick, d'ailleurs, qu'on embrasse aussi à cette occasion. Et pour cette diffusion, merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. On continue à découvrir Désenchantés. C'est le grand final, en tout cas, cette semaine sur France 2 et déjà sur France.tv. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Sarah Leroy, tu te rappelles de l'affaire?
Bien sûr, mais ça a plus de 20 ans.
Angélique, vous aviez le même âge, non? Tu la connaissais?
Sarah Leroy, regarde-moi, c'est pas ça, Olympique. Juste pour toi.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous?
Tu prends tes distances, j'espère. Sinon, on va croire que tu cautionnes ces mensonges.
À très bientôt, Angélique. Pourquoi la saison de Sarah Leroy est faite à ta mère?
Je suis pas.
C'est une petite ville, tout le monde se croise.
Dégage!
Un coup de fil et je te rends mon tôle.
Tu sais, je veux vraiment découvrir ce qui arrive à Sarah Leroy. C'est pas un jeu pour moi.
J'arrive pas à écrire mon article. Je reviens toujours à un souvenir précis.
Écris la vérité. Dis comment je me suis fait piéger. Je croyais qu'on se disait tout. Commentaire, c'était pour les lâches.
Et voilà, on va terminer notre spécial Désenchanté avec Marie Desnarnaud qui nous rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avec notre Sarah Leroy et notre Angélique jeune. Franchement, on va passer 2 semaines de folie, il faut pas se cacher. Ah, parce qu'après ces 2 premiers épisodes, on a laissé les téléspectateurs tellement en suspens avec Eric qui a chuté de la falaise. On va découvrir comment, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, on va parler du personnage de Fanny Courtin quand même, parce que c'est un personnage en couleur qui débarque, qui revient à Bouville, contrainte et forcée, je crois qu'on peut le dire. Comme ça, retrouve sa sœur après des années. Et on va dire que ces retrouvailles ne sont pas très très chaleureuses au premier abord.
Bah, en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup dans le personnage, c'est que c'est quelqu'un qui a dit non, qui a tourné le dos à beaucoup de choses, qui a été dans un espèce de refus, de rejet, qui a sauvé sa peau, qui s'est tiré de son monde qu'elle trouvait trop petit. Alors évidemment, avec des sacrifices, puisque pendant ce temps-là, elle a quand même un peu abandonné les siens. Mais elle a été dans la liberté, elle a été dans une ouverture, elle a été dans un champ des possibles, ce que n'a d'une certaine manière pas fait sa sœur, qui est restée sur place, quoi. Donc j'aime sa liberté. Après, c'est une femme qui a quelque chose aussi de très elle est masquée, parce que elle s'est remodelée, elle s'est transformée pour correspondre. C'est quand même un peu un transfuge de classe, et donc là elle revient contrainte et forcée.
Elle est journaliste.
Elle est totalement journaliste, sans s'attendre du tout, je pense, à ce que ça va produire sur elle et à ce que ses retrouvailles vont révéler, à aussi ce que sa relation avec sa belle-fille va lui révéler d'elle-même. Il y a aussi quelque chose que je trouve très beau dans les liens entre les femmes dans ce film, entre les personnages adolescents, matures, comment les adolescents du présent vont révéler les adolescents du passé aux adultes du présent. Enfin, il y a quelque chose sur la temporalité qui est très fort. Et puis, il y a aussi cette chose que moi, je trouve merveilleuse, parce que vous, Alain ou moi ici, on est là avec nos âges, mais une odeur, une lumière, une musique, et l'enfant, l'adolescent, la jeune femme, le jeune homme qu'on était ressurgit en 5 minutes. Donc en fait, on est tous très composites, on est à la fois nous-mêmes au présent et porteurs de tout ce qu'on a été avant, quoi. Et la série parle aussi de ça.
Exactement, et c'est vrai que tu le disais, c'est un film de femmes, mais où tous les rôles d'hommes ont une importance capitale. Alors évidemment, on s'est posé la question pendant quasiment les 2 épisodes si Eric était victime ou bourreau. Là, on commence à avoir un début de réponse quand même avec cette fin d'épisode 2. Il y a encore bien des révélations à venir.
Il y a énormément de révélations, et surtout ce qui est incroyable dans ce livre à la base, hein, d'ailleurs, et dans la série dont c'est l'adaptation, c'est qu'on ne peut... Jusqu'à la dernière minute du film, on ne peut pas avoir d'idée préconçue de ce qui s'est réellement passé. Et en ça, c'est quand même un chef-d'œuvre de suspense, quoi.
Tu avais lu le livre avant ou pas ?
En fait, je l'ai lu. Alors, c'est pas rendre hommage au livre de Marie Vareille, auprès de qui je m'excuse immédiatement. Mais je n'avais pas lu le livre avant de rencontrer David pour le projet. Et donc, j'ai un petit peu lu le livre comme un document de travail, ce qu'il ne mérite pas, puisque c'est un livre formidable. Mais moi, ça a été un petit peu comme ça. Ça a été un document de travail, un endroit où aller chercher, où aller glaner des informations, de la nourriture, plus que un plaisir que j'aurais eu si je l'avais lu sans qu'il soit lié à une proposition de travail.
Alors, le personnage de ton neveu a été rajouté par rapport au livre, hein, le personnage d'Eder aussi, qui a une importance assez capitale avec cette jeune journaliste stagiaire, hein, qui était flanquée pour faire ce reportage, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui va, elle aussi, en tout cas, avoir un rôle clé pour faire éclater la vérité.
Pour moi, c'est la très grande idée de cette adaptation, c'est le personnage d'Eder, pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve ça magnifique qu'à travers lui et le personnage de Daphné, en fait, c'est la connexion émotionnelle de ces adolescents du présent avec les émotions des adolescents du passé qui fait que l'enquête va réussir enfin à avancer. Donc il y a ça que je trouve brillant. Et puis Eder, c'est une masculinité différente et il fait du bien. On en a besoin, c'est l'homme du futur.
C'est l'homme de 2025.
Exactement. Et donc je trouve que c'est un personnage merveilleux. Et puis ça met aussi les deux sœurs à un endroit de maternité, même s'il est différent, puisque Fanny n'est pas dans une relation de mère, elle est dans une relation de belle-mère. Mais ça les met aussi en face de ces deux adolescents, et ça crée une forme d'équité aussi, et ça leur permet parfois de se ressouder entre elles face aux attaques de ces deux enquêteurs en herbe et de ces deux adolescents.
Vous allez découvrir en tout cas bien des choses, hein. Vous avez vu les 2 premiers épisodes. Eh bien, je peux vous dire que vous n'avez encore rien vu face à ce qui vous attend. Les 2 derniers s'annoncent apocalyptiques. Vous allez voir, ça va être du très haut niveau. On vous le conseille vraiment, Désenchanté, la suite. C'est donc sur France 2 cette semaine, on ne le rate pas. Puis franchement, si vous pouvez pas résister, allez sur France.tv, la série est déjà en intégralité. C'est encore le mieux qu'on puisse faire. Alors, Marie, il y a plein d'autres projets. Aussi tourné une page dernièrement, il y a maintenant quelques semaines, celle de HPI, dont les ultimes épisodes ont été diffusés en septembre. Ça aussi, ça a été 5 ans de ta vie. C'est un rêve d'avoir une série qui cartonne autant.
Alors oui, ça a été une surprise merveilleuse, ça a été un cadeau pour moi, HPI, parce que bon, déjà c'est la seule fois dans ma vie où j'ai fait une série avec de la récurrence, avec des saisons, donc déjà ça c'était nouveau. Ça fait partie des très très rares projets de comédie, hein, dans lesquels j'ai été, et c'était un délice en fait d'être dans cette comédie. C'était un délice d'y revenir. Après, c'est à la fois 5 ans de ma vie, mais l'avantage du second rôle, c'est que moi j'ai toujours fait aussi tous les autres projets à côté. Donc pour l'instant, déjà peut-être je suis un peu dans le déni, mais comme je suis très au présent, je le vis pas comme une page complètement tournée.
Et est-ce qu'elle est définitivement tournée ? On pourrait imaginer tout plein de retours surprises, un téléfilm événement, un film au cinéma. Il y a tout plein de choses, tout plein de façons dont HPI pourrait revenir un jour de façon événementielle.
Oui, il y aura peut-être ça, mais en tout cas, tel que c'était, c'est fini. Et c'est bien aussi, en fait. Moi, je trouve ça assez joyeux de s'arrêter à un moment magnifique, à un moment encore très inventif, très créatif, de jamais être rentré quand même dans des redites ou dans un épuisement de séries, ce qui peut quand même être le cas.
Il y a 40 films, hein.
Ouais, 40 films, c'est vrai. J'avais pas réalisé.
Ben voilà, c'est fait.
Ouais. Merci, Alain, de me remettre les pendules à l'heure.
Bon, maintenant qu'on a remis l'église au milieu du village, les projets pour 2026, Marie?
Alors là, j'ai un beau retour au théâtre avec une reprise d'un spectacle magnifique adapté de King Kong, Théorie de Virginie Despentes, qui est vraiment un grand texte et puis un projet que j'adore et qu'on aime reprendre et qu'on reprend toujours différemment, un peu dans quelque chose de l'ordre de la performance. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec Antoine Garceau pour la télévision de nouveau sur un 4x52 minutes.
Mitterrand.
Voilà, Mitterrand confidentiel, qui a été extraordinaire à faire, extraordinaire de travailler avec un immense acteur comme Denis Podalydès pour moi, puisque j'avais toutes mes scènes avec lui. Et puis j'ai très très hâte de découvrir le résultat que j'ai pas encore vu. Puis après, une autre création au théâtre qui commencera au Rond-Point, au Théâtre du Rond-Point à Paris, mais qui sera aussi à Nantes, à Angers, en Bretagne, voilà, un très beau projet aussi avec une metteur en scène avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, Mélanie Leray, que j'adore, scène d'intérieur. Et puis j'ai aussi eu la chance de participer à un très beau projet de cinéma avec une partition un peu en mineur, on va dire, mais un projet passionnant à faire d'un immense réalisateur japonais qui a fait un film en France, Ryusuke Hamaguchi, où il y a beaucoup de personnages parce que ça se passe dans un EHPAD, donc on a créé toute une équipe d'EHPAD autour de Virginie Efira qui dirige cet EHPAD, et je pense que le film va être magnifique.
C'est génial tout ça. Bah dis donc, que de choses. En tout cas, c'est désenchanté. Épisode 3 et 4, on ne le rate pas. C'est le grand final qui vous attend. Plein de surprises. Et ça sera donc cette semaine sur France 2 et déjà sur France.tv. Merci Marie d'avoir été avec nous.
Bah merci à vous. Merci pour la fidélité. Et puis merci de parler de cette série qui est quand même, je trouve, assez exceptionnelle.
Bah écoute, on referme la page. En tout cas, désenchanté avec toi. Merci d'avoir été là et à bientôt.
À très bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre invitée, c'est Elisa Ezzedine qui est notre invitée aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Bon, ça y est, le personnage est parti, Demain nous appartient, une page est tournée pour le personnage de Camille. Et c'est vrai que les fans sont tous en larmes depuis la semaine dernière, il faut le dire. Une aventure incroyable.
Ah, c'était formidable, je regrette pas. Et j'ai énormément appris durant ce tournage, ça fait quand même plus de 4 ans que je suis là. Quel bonheur en fait de pouvoir dire que j'ai fait partie de cette série.
C'est une belle école.
Une très belle école. En plus, Camille, j'ai la chance d'avoir eu un rôle qui a eu énormément de choses à vivre. J'ai eu plusieurs séquestrations, plusieurs conflits avec les parents, les amis, etc. J'ai eu des arches très difficiles à jouer. Donc plein d'histoires à raconter, finalement.
Ouais, puis t'as eu de la comédie, il y a eu du drame où t'as montré des facettes de Camille aussi beaucoup plus difficiles. C'est vrai qu'une série quotidienne, il n'y a rien de tel pour jouer plein de choses à la fois. Quand vous sortez d'une série comme ça, vous pouvez quasiment tout jouer.
Ouais, c'est un très bon moyen de se former. Hein. Ah, j'en ressors grandi. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai un nouveau projet. Je fais partie des talents d'Amis Cinéma 2026. Donc, c'est tout nouveau. Donc, ça me sort, en fait, du coup, de la quotidienne que j'ai depuis un moment. Et c'est vrai que j'ai eu une toute nouvelle expérience parce qu'en fait, on a, avec le réalisateur qui s'appelle Kevin Razi, on a fait que des plans séquences. Ça n'a rien à voir avec une quotidienne où on fait champ contre champ la plupart du temps, donc c'est coupé. Là, on a action, on a joué longtemps jusqu'au coupé. C'était dur. C'était même très dur.
On va parler justement de ces talents Adami dans quelques instants. Juste avant, si tu dois faire un retour en arrière de ces 4 années, qu'est-ce que tu garderas comme souvenir, même si on a vu que la fin du personnage était quand même ouverte. Donc on ne sait pas, peut-être qu'un jour Camille reviendra. Hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu garderais comme grand souvenir? Tes rencontres peut-être avec Sixtine, avec Jennifer?
Oui, je pense que je vais garder mes rencontres. J'ai rencontré des personnes formidables. Déjà, j'ai rencontré Sacha, avec qui je travaille énormément en ce moment. J'ai rencontré Xavier Deluc, un grand-père formidable qui a été énormément à l'écoute. Charles Laure qui a été un papa mais exceptionnel. D'ailleurs, il me manque. J'espère que tu vas bien, Charles, si t'entends cette interview. Je pourrais en citer, mais tellement. Je me suis fait plein d'amis, en fait, sur ce tournage.
C'est difficile de quitter un projet comme ça?
C'est difficile, oui, parce qu'on prend l'habitude, dans un sens. On tourne souvent. Et d'un autre côté, vu que ça a été mon choix de quitter, ça a été plutôt simple de partir. Et puis, je suis motivée, en fait, aujourd'hui à découvrir de nouvelles choses, quoi.
Alors, tu fais aussi de la musique, tu chantes. On a pu le voir hein, quand on t'a accueilli d'ailleurs en juillet. T'as des projets musicaux, projet Talents Adami. Alors explique-nous, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que les Talents Adami?
Alors, chaque année, il y a un concours. Donc cette année, il y avait 1800 candidatures, il me semble. Donc on est 12 talents sélectionnés. Donc 3 Talents Adami par court-métrage. Il y en a 4, si je ne me trompe pas. Et en fait, on fait un cours avec des acteurs, des comédiens, Kevin Razi qui en est un, et qui veulent devenir donc réalisateurs. Donc c'est leur premier projet à l'écran. Et ce court-métrage va être en avant-première à Cannes en 2026. Et en fait, c'est un excellent moyen, comment dire, de se faire connaître en tant que comédien.
C'est un tremplin.
Voilà, c'est un tremplin énorme. Et humainement aussi, de faire des rencontres aussi dans le travail, c'est important. Ça va nous permettre de faire plein de festivals, notamment Cannes, qui va me permettre de rencontrer, je pense, de nouveaux directeurs de casting, de nouveaux réalisateurs, de nouveaux comédiens dans le milieu.
Alors, Kevin est connu aussi pour l'humour, quand même, il faut le dire. Comment il est en tant que réalisateur, justement, dans la vraie vie?
Je vais dire un mot, je pense que ça le fera rire. Pour moi, c'est un doudou. Voilà, Kevin, c'est un gros doudou. Il est mais extraordinaire. Je pense que c'est l'une de mes plus belles rencontres dans ce milieu. Il est très humain, très à l'écoute, très gentil. Il prend le temps. En plus, comme c'est un comédien, le fait d'avoir un réalisateur qui est comédien aussi, il savait tout de suite quand il y a quelque chose qui pouvait me déranger, nous déranger. Parce que je tourne en fait dans ce court-métrage avec Boubacar, Salomé aussi, Scotto, qui sont tous les deux des super comédiens. Et vraiment, il était là pour nous. En fait, il a pris le temps de nous comprendre et nous aider vraiment à viser juste. Et ça, c'est magique d'avoir un réalisateur pareil, en fait.
Ça te donne envie, toi, de un jour, peut-être, réaliser?
J'adorais d'ailleurs, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit plusieurs scénarios, que ce soit de séries, de films ou de courts, qui j'espère pourront voir le jour.
Alors, est-ce que tu as justement un rôle que tu as envie de t'offrir si tu réalises? Ou si tu réalises, tu ne peux pas jouer? Il y a deux écoles dans ce genre de situation.
Alors j'ai envie de faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a certains scénarios que j'ai écrits, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui joue. Et moi aussi, c'est une expérience pour moi justement de pouvoir guider un comédien et de voir...
Se concentrer là-dessus.
Voilà, c'est ça. Et sinon, il y a d'autres choses que j'ai écrites plus pour moi. Parce que c'est des choses que j'ai vécues aussi, que j'ai un peu embellies bien sûr pour faire quelque chose de sympa à l'écriture. Et que j'ai plus envie de jouer ce qui m'appartient, enfin ce qui est de l'ordre de ma vie privée, quoi.
Écoute, justement, ça tombe bien, demain t'appartient, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a plein de belles choses pour toi à venir, après toute cette aventure Demain nous appartient. Et puis peut-être que voilà, les fans, ne baissez pas les bras, Camille reviendra peut-être un jour, la fin est ouverte et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça vous donne la possibilité d'aller prendre l'air, d'aller faire d'autres choses, de voir d'autres horizons et peut-être voilà, de revenir encore plus motivé.
Moi je pense qu'il faut jamais dire jamais, voilà.
Merci beaucoup Elisa.
Merci beaucoup à toi.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Planète Rap qui débarque en quotidienne depuis ce début novembre sur France 4 à 21h tous les soirs et bien sûr sur la plateforme France.tv avec son animateur emblématique Fred Musa. Bonjour Fred.
Bonjour, comment ça va?
Eh bien écoute, ça va très très bien et je suis très content de parler à la Bible du rap parce que,
pour être
honnête, moi je ne suis pas rap. Mais par contre, je crois qu'il y a beaucoup d'aficionados. C'est une émission qui est une déclinaison d'une célèbre émission de radio qui existe depuis maintenant 30 ans. Et c'est vrai que Planète Rap sur France 4 prend ses quartiers quotidiens. C'est une bonne nouvelle pour l'émission?
C'est une super nouvelle. En fait, c'est une super nouvelle parce que Planète Rap existait déjà depuis un an et demi en déclinaison télé. C'était diffusé aussi sur France 2 en troisième partie de soirée avec des résultats. Moi, j'étais même étonné en termes de résultats d'audience. Mais là, on va être présent en quotidienne. Alors, c'est un format plus court qui va durer évidemment 2 minutes 30. Avant, c'était un format de 26 minutes. Mais l'idée, c'est pas de rester, vous l'avez compris, France TV a depuis plusieurs années, une culture du côté linéaire, mais aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, de plateformes. Donc l'idée, c'est aussi de décliner non seulement en 2 minutes 30 sur le linéaire, mais aussi sur les réseaux sociaux avec des formats un peu plus longs. Donc il y aura un concentré de 2 minutes 30 et des formats un peu plus longs sur les réseaux sociaux, notamment sur les chaînes Slash, par exemple, de France Télévisions.
Alors, c'est vrai que toi, t'as reçu tous les plus grands artistes emblématiques, effectivement, du rap français. En 30 ans, tu en as vu passer, évidemment, énormément. Comment tu juges un peu, justement, l'évolution du rap pendant ces 30 années?
C'est assez incroyable. J'arrive pas à faire de comparatif avec un autre mouvement musical. Souvent, il y a des mouvements musicaux et qui parfois s'éteignent, alors peuvent redémarrer. Mais celui-ci est tout simplement incroyable. On a une scène aujourd'hui qui est multiple. Ça peut aller de Jul à des DC's. Ça peut aller de Jul à des Youssef Swat. Il y a vraiment pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et puis aussi pour toutes les générations. C'est ça qui est assez fou, c'est que le rap était avant la bande-son d'une seule génération, peut-être les plus jeunes. Aujourd'hui, c'est la bande-son de plusieurs générations. Et c'est ça qui est assez fou avec ce mouvement.
Eh ben oui, parce que moi, je suis un peu la génération NTM, Stomy Bugsy, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération de rappeurs qui d'ailleurs prennent très à cœur aussi de faire évoluer leur musique sur les réseaux sociaux. Ils sont souvent très prolifiques. Comment t'arrives à suivre ce mouvement permanent? Parce qu'il y a des rappeurs qui sortent des fois deux albums dans l'année ou qui sortent des albums qui font 30 titres. C'est totalement fou, quoi.
ou même des morceaux, bah là, il y a Gims qui a décidé de sortir jusque fin décembre un morceau tous les 15 jours. Non, mais c'est pour ça quand je disais tout à l'heure, je vois pas d'autres courants musicaux qui ont eu à peu près la même chose. Il y a une création dans ce courant musical qui est assez incroyable. Et après, comment j'arrive à suivre, bah, je reste curieux surtout. Voilà, je pense qu'avant tout la clé, c'est être curieux, être bien entouré aussi. Je vous cache pas que j'ai une belle équipe autour de moi. Il y a des jeunes qui sont là autour de moi qui me disent tiens, t'as pas écouté cet artiste tiens, ou qui me font écouter, qui me montrent leur portable parce qu'évidemment maintenant ils écoutent sur leur portable. Ils disent, ah tiens, écoute ça ou alors regarde ce mec là, regarde cette nana, etc. Donc voilà, je reste passionné. Je pense que la clé de tout ça, c'est la passion et être curieux.
Comment tu expliques que le rap reste aussi populaire auprès de la jeune génération qu'aujourd'hui 14, 15, 16 ans qui écoute que ça aujourd'hui?
C'est la musique qui leur parle. C'est difficilement explicable. Une musique, c'est la rencontre, en fait, entre un public et un artiste. Et sur cette scène-là, il y a un moment, je vous citais tout à l'heure quelques exemples d'artistes, mais il y a un renouveau en permanence qui fait que, voilà, ce renouveau arrive à toucher constamment des nouvelles personnes. Donc, c'est ça qui est assez fou avec ce courant musical.
Le jeune Fred Musa. Comment il est tombé dans la marmite du rap?
Toujours, j'y suis. J'ai commencé, voilà, c'est hier.
Ça laisse éternellement jeune, de toute façon, de s'intéresser au rap comme ça.
Je crois. Comment je suis tombé dans la marmite? Moi, je suis tombé dans la marmite. J'ai un parcours là-dessus avec la musique qui passe d'abord par la radio, parce que la radio, c'est ma passion. À l'époque, on se rend pas compte, mais quand il y avait un morceau qui était diffusé en radio, parfois, il fallait attendre une heure et demie avant de pouvoir le réécouter. Aujourd'hui, ça paraît totalement dépassé ce que je raconte, puisqu'il suffit d'aller sur un système d'écoute de morceaux et on peut réécouter son titre plusieurs fois de suite.
Bien sûr.
Mais à l'époque, voilà. Donc, moi, j'écoutais, j'étais passionné par la funk. En fait, vraiment. La musique qui m'a emmené vers le rap, c'est la funk, et dans les années 80, où je vais grandir, ou à ce moment-là, où j'ai 14, 15 piges, quoi, au moment où vraiment.
Oui, c'est un peu les Imagination, ou les Cool Hang the Gang, des choses comme ça qui t'ont emmené.
Bien sûr, mais ouais.
C'est énorme.
Là, tu es en train de me faire pétiller, là. Cool Hang the Gang, Shalamar, D-Train, Patrice Russian, Forget Me Not, enfin, des morceaux absolument incroyables. Et souvent, dans le rap, ce qui m'a amené donc au rap, c'est que souvent, cette musique, cette funk était samplée. On prenait des petits bouts de funk, et les artistes rappaient dessus. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce courant où d'un seul coup on prend de la musique que j'aime et où on en refait quelque chose, où on remet au goût du jour même certains morceaux. Et c'est ça qui m'a fait me passionner et m'intéresser à ce mouvement qui commençait à exister à la fin des années 80 en France, je parle, parce qu'il était né un petit peu plus tôt aux États-Unis, mais en tout cas en France à la fin des années 80 et j'ai plongé en effet dans la marmite directement, ouais.
Alors les premiers invités que t'as reçus début novembre, Oxmo Puccino, Giorgio, etc. Mais c'est totalement hallucinant. Ils sont tous chez toi. Tu les connais tous par cœur. Et malgré tout, aujourd'hui, nombreux des fois sont ceux. La polémique n'est jamais très loin avec le rap. Comment t'arrives toi à gérer ça avec tes invités?
Bah, la polémique est jamais très loin, mais j'ai envie de dire encore heureux qu'aujourd'hui il y a encore une musique aussi et des artistes qui arrivent à faire réagir. On est quand même dans un monde qui est assez divisé, assez fracturé. Donc, à un moment, cette musique, comme le rap, arrive à déclencher, en tout cas, un débat, arrive à déclencher des polémiques. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Après, évidemment, je fais quand même toujours attention au texte. Il y a des choses, oui, bien sûr, comme dans le rap, mais comme parfois dans d'autres musiques, inacceptables. Et ça, c'est évidemment des choses
comme
qu'on joue pas.
Oui, comme l'incitation à la violence ou des choses comme ça, bien sûr.
Bien sûr. Mais à partir du moment où il y a des morceaux comme ça et des artistes comme ça, on joue pas et on diffuse pas, bien évidemment.
Alors Fred, comment t'aimerais encore que Planète Rap évolue? Est-ce que tu aimerais, par exemple, voilà, que le format soit un petit peu plus long? Est-ce que t'aimerais avoir un peu plus de temps en quotidienne, par exemple?
Le format plus long, on l'a fait pendant un an et demi, on a fait une soixantaine de numéros. Voilà, je pense qu'on a
fait
le tour, en tout cas pour l'instant.
En quotidienne, c'est extrêmement prenant, quoi, mine de rien. Enfin, tu le fais en radio, remarque.
C'est vrai que c'est 2 minutes 30, et 2 minutes 30, ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est garder aussi un peu ce côté, moi j'aime bien ce côté un peu pédagogique, parce que je me dis toujours aussi, tu vois, quand tu me citais l'exemple là, du rap qui peut parfois encore avoir cette image un peu violente, machin, etc. Moi j'ai envie aussi de donner un peu encore ce côté pédagogique à des gens qui vont se dire, mais alors attends, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc l'idée vraiment Planète Rap, la quotidienne en 2 minutes 30, c'est ça, faire quelque chose d'assez pédagogique pour les gens qui vont tomber sur le linéaire à cette heure-là, à 21h, qui vont zapper. On va dire, ah tiens, ça va peut-être la musique, écoute mes gamins, machin. Et après, on va aussi donc décliner, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu me dis ce que j'ai envie de faire, bah c'est voilà, continuer à décliner avec en effet des formats un peu plus longs. Par exemple, un Giorgio ou un Oxmo Puccino, c'est aussi retrouver une partie un peu plus longue sur les réseaux sociaux et sur les différentes...
Sur
les différentes plateformes et sur France.tv, exactement. Et j'ai une chance quand même qui est quand même assez incroyable, c'est que on critique souvent le service public. Mais je trouve que voilà, quand je regarde la rentrée du service public avec tous les visages, avec tout ce que que représente ce groupe. Mais moi, je suis vraiment très fier et je serai un des premiers défenseurs et peut-être même des derniers défenseurs du service public parce qu'on tape assez facilement dessus. Mais honnêtement, ce que propose le service public, le groupe, l'ensemble du groupe France TV, bah, il y a très peu de personnes qui peuvent proposer et se vanter d'avoir des gens et des talents aussi différents au sein de des différentes chaînes et du groupe.
Et puis de laisser libre aussi court, parce que c'est vrai que France 4 maintenant va de plus en plus vers la culture, et il est vrai qu'on peut voir très bien le concert d'un rappeur un soir et de voir un concert de Grand Corps Malade le soir.
Mais c'est important.
Et il y a une diversité culturelle, je trouve, super intéressante maintenant.
C'est une mission du service public, c'est une mission, c'est ça qui est assez fou, c'est que voilà, en effet, on passe d'un seul coup sur France 4 avec des orchestres philharmoniques, puis après le lendemain, il peut y avoir un concert de rap. Voilà, je pense que c'est important, c'est très important en tout cas.
Merci beaucoup Fred, en tout cas, d'avoir été avec nous. Planète Rap, c'est du lundi au vendredi à 21h sur France 4, c'est également sur France.tv en version longue pour ceux qui en veulent encore plus. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup Fred.
Et merci à vous surtout, à très vite.
À très vite, merci. Allez, ne bougez pas, dans un instant, la dernière partie d'émission consacrée à la série Extra Lucide, Bruno Merle, Sabrina Ouazani et Camille Rutherford nous rejoignent. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Du matin, je suis encore réveillé. Je sais bien que demain j'aurai tout oublié. La tête à l'envers, j'arrive plus à penser. Et quand la nuit m'appelle, elle me fait vaciller. Mais dis-moi qui je suis, si jamais je l'oublie. Quand plus rien ne m'attire, que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre la raison, l'endroit, le repère, l'horizon, l'horizon. Dis-moi que tout sera comme avant. Je voudrais jamais tout changer, jamais tout abandonner. Mais parfois j'ai peur de ne rien contrôler. Je m'endors dans des nuits agitées, impression que je pourrais vriller. Mais tout me rappelle que je dois continuer. Mais dis-moi qui je suis quand plus rien ne m'attire. Que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre la raison, la raison. L'endroit, le repère, l'horizon, l'horizon.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à la série Extra Lucide qui débarque sur OCS Ciné+. Vous allez pouvoir découvrir en tout cas cette nouvelle série de Bruno Merle qui est avec nous. Bonjour Bruno.
Ouais, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on va dire que dans l'inconscient collectif, c'est presque un fantasme quand même, c'est de pouvoir lire dans les pensées des autres. Mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est en tout cas ce que va dépeindre un peu la série à travers le personnage de Denise, qui est une femme ordinaire, enfin du moins presque, puisqu'elle entend les pensées des gens. Aucun esprit va lui résister jusqu'au moment où il va y avoir des cas de conscience qui vont se poser évidemment dans cette série. Ça pose beaucoup de questions finalement.
Oui, c'est une série qui traverse pas mal de thèmes, mais surtout celui-là. Est-ce qu'on a envie de savoir, est-ce qu'on a envie d'être trop lucide dans la vie, de savoir ce qui se passe dans la tête de nos interlocuteurs? Denise, c'est une femme qui a de quasi 40 ans, c'est-à-dire un moment de la vie aussi où on a acquis pas mal d'expérience, où on a commencé à poser un regard sur les gens, sur les autres. Et ça raconte ça, en fait. Est-ce que c'est bien d'être trop lucide sur l'existence, sur les autres, sur la vie amoureuse, notamment, ça en parle beaucoup. Donc ouais, le super pouvoir, la télépathie, je pense qu'on a tous rêver à un moment ou l'autre de le posséder. Un des objets de la série, c'est qu'à la fin, je pense qu'on n'a plus trop envie d'être télépathe.
Comment est venue l'idée ?
Ah, c'est une très vieille marotte de scénariste. Ça fait partie du métier de scénariste, presque, d'imaginer ce à quoi pensent les gens. C'est un exercice même que moi, je me suis imposé pendant longtemps. M'asseoir à une table, regarder les gens, imaginer leur vie, imaginer ce qu'ils pensent. Donc, voilà, ça vient de ce truc de scénariste dont un jour on s'est dit que ça pouvait devenir une aventure de fiction passionnante et ouvrir sur plein de thèmes, parce que la série, elle traverse plein de thèmes.
Pour le coup, Denise, incarnée par Camille Rutherford, l'héroïne, comment vous l'avez trouvée, casting, qu'est-ce qui vous a plu en elle ?
Camille, je la connaissais parce que mon dernier film qui s'appelle Felicita, c'était avec elle. Donc on avait vécu une expérience de tournage merveilleuse, elle est extraordinaire dans le film, elle avait été nommée au César d'ailleurs pour le film. On avait envie de retourner ensemble, moi j'avais envie de retourner avec elle, donc voilà, il était évident que ça devait être Camille.
Alors c'est vrai que on parlait de fantasme et de cette idée, mais alors après jusqu'au moment de la concrétiser, Cécile n'est plus au CS pour le coup qui s'est lancée dans cette aventure à vos côtés. Est-ce que ça a été difficile de convaincre des chaînes sur un projet comme ça ?
C'est toujours difficile de convaincre les chaînes, de toute façon chaque fois c'est un combat. C'est vrai qu'OCS nous a offert un champ de liberté immense et infini, nous a fait confiance assez vite, assez fort, en nous confiant la responsabilité justement de s'emparer de cette liberté. Et je crois qu'on l'a pas mal fait, autant dans les formats de tournage que, enfin voilà, c'est une série hyper ludique qui joue beaucoup avec la narration, qui joue beaucoup avec des petits flashs, des surprises narratives, des retours dans le passé, des changements de format. Enfin voilà, le cadre de la série est aussi libre que le personnage enfermé dans son appartement.
Et qui nous interroge, nous aussi, du coup.
Bah, on a essayé, parce que, pour le coup, la télépathie, c'est tellement vaste. Ça permet d'aborder des sujets hyper nombreux. La série, elle traverse des questions sur, justement, la vérité, le mensonge, la mort. Enfin, voilà, des choses qui peuvent paraître un peu parfois sombres, mais qu'on a toujours abordé d'un point de vue ludique. C'était très important pour nous que la série reste légère, joyeuse, envolée.
Bruno, pour être honnête, moi j'ai vu les deux premiers épisodes, donc je vais être comme les spectateurs qui vont le découvrir cette semaine. Est-ce que c'est bouclé à la fin des 6, ou est-ce qu'on peut imaginer une suite, en tout cas si ce qu'il y a une saison 2 qui commence à germer déjà?
Bon, on peut toujours imaginer une suite. Moi j'ai plein d'idées en tout cas. On a même posé quelques petits éléments pour enchaîner derrière, mais ça il faut regarder jusqu'à la fin du générique de fin.
En tout cas, merci Bruno d'avoir été avec nous. On va découvrir Extra Lucide cette semaine sur Ciné Plus OCS, et dans un instant on revient avec Camille Rutherford et Sabrina Ouazani, justement les deux meilleures copines. On va voir, on va leur poser quelques questions justement sur ce pouvoir qu'a Camille Rutherford, qu'a Denise. On va parler de leur personnage, alors surtout ne bougez pas, on va écouter la bande annonce déjà. Merci beaucoup Bruno.
Merci à vous.
Marc, c'est ça?
Ouais.
Marc, mais Marc le businessman, l'aventurier, l'artiste aussi.
Ouais, on peut dire ça.
Ce mec a réchappé au Twin Tower, hein. Ah ouais, ouais. Waouh. Le mytho. Donc tu m'as ramené le mytho. Mais tu crois que je t'écoute pas quand tu me racontes les choses, là, de ton boulot?
Pardon, mais je...
Non, tu me prends pour une conne.
Non, mais ça va, c'est toi qui m'as mis la pression aussi.
Et voilà, on continue notre session extra lucide après Bruno Merle. Eh bien, elles sont là avec nous, Camille Rutherford et Sabrina Ouazani. Nous ont rejoints. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Salut.
Merci d'être là. On va parler de Denise et de Joy. Évidemment, on a planté un petit peu le décor avec Bruno il y a quelques instants. Et il faut dire que le personnage de Denise est quand même un personnage assez complexe qui rentre un peu dans le fantasme que tout le monde voudrait. Mais après avoir vu la série, je suis pas sûr qu'on va vouloir continuer à avoir ce fantasme-là. C'est lire dans les pensées des autres.
Ouais, non, c'est vrai que souvent, quand on pense à quel super pouvoir on aimerait avoir, on aimerait avoir le pouvoir de voler, de le don d'invisibilité, de devenir minuscule, comme de la taille d'une fourmi, pour pouvoir s'incruster chez n'importe qui, et de pouvoir lire dans les pensées des gens. Mais en effet, on découvre qu'avec Denise, c'est vraiment... c'est un super pouvoir nul.
Ça l'encombre, on sent que ça l'encombre.
Bah oui, parce que elle a ce super pouvoir, enfin ce fardeau depuis qu'elle est née, mais même si elle peut le contrôler, et si elle veut ne pas lire dans les pensées des gens, elle peut réussir à ne pas le faire. C'est très fatigant de ne pas le faire, et elle le fait quand même parce que c'est plus fort qu'elle. Et en fait, ce qui est vraiment très très dur pour elle, c'est qu'elle peut pas avoir d'histoire d'amour, parce que forcément, dès qu'elle est avec quelqu'un,
elle sonde.
Ouais, et puis elle finit par aussi avouer la vérité à la personne qui ne veut pas. À chaque fois, tout le monde part, parce que évidemment, Moi, je pourrais jamais être en couple avec quelqu'un qui peut lire dans mes pensées. Je pense que personne ne pourrait. On a tous besoin de nos secrets. Donc, la série commence à aller au bout de sa vie parce que justement, elle a été très amoureuse d'un dénommé Jérém. Et en fait, il l'a quittée quand elle lui a avoué au bout de plusieurs années qu'en fait, elle pouvait lire dans ses pensées, qu'elle le faisait pas pour respecter son intimité, mais qu'en fait, elle peut le faire. Et c'est horrible. Moi aussi.
Ouais, des fois, c'est plus fort qu'elle.
Ouais, c'est plus fort qu'elle. Et moi, je comprends Jérém, hein, je me serais barré.
Mais elle peut compter toujours sur sa coloc et meilleure amie, Joy, incarnée par Sabrina, où en fait, entre ces deux jeunes femmes, c'est un peu comme un pacte de non-agression. C'est un peu un pacte de non-sondage, où que là, entre les deux, comme dit Joy, si tu me sondes, tu dégages. En gros.
Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est vrai que, bah, c'est ce que disait Camille. Je pense qu'on a tous besoin de garder notre jardin secret. Et puis, c'est hyper perturbant. Donc, effectivement, Denise, qui est abîmée par le bruit du monde et par ce rejet de l'homme qu'elle aime, va décider de se réfugier auprès de sa meilleure amie, qui est finalement un endroit où, un cocon dans lequel elle se sent en sécurité et en confiance. Mais voilà, la contrepartie, c'est qu'effectivement, elle n'a pas le droit de rentrer dans mes pensées, de me sonder.
Et comment être sûr qu'elle sonde pas? C'est toujours ça aussi, quand il y a une amitié et qu'on rentre. Effectivement, on est dans une série fantastique, attention un peu quand même, hein. Mais comment vivre avec cette épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête, de se dire sa meilleure amie peut te sonder et lire toutes tes pensées finalement, quoi.
Ouais, bah je pense que c'est bouleversant, c'est perturbant, mais effectivement je trouve que c'est la base, l'essence même de l'amitié, c'est la confiance, c'est de se dire qu'effectivement je peux totalement me reposer sur mon amie et je peux me dire qu'effectivement si on se met un pacte et si on se dit quelque chose, elle va le respecter, parce que sinon ce sera la fin de notre amitié et qu'elle est trop précieuse et pour elle et pour moi. C'est des amies d'enfance, elles sont un duo mais aussi un trio avec Angel interprété par Daniel Lund. Ouais, c'est un pacte d'amour et d'amitié que Denise se doit de respecter et Joy a confiance en elle. Et puis je pense, pardon, que Denise, je crois que c'est la seule personne sur cette terre à qui Joy, en fait, elle peut totalement faire confiance et avec qui elle se sent bien et en sécurité.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier, Camille, justement, quand t'as lu le scénario, qu'est-ce que tu t'es dit en premier?
Bah déjà, j'avais très envie de retravailler avec Bruno, vu qu'on avait déjà fait le film Felicita. Je suis très attachée à lui, il m'a vraiment aidé à avoir du travail, à être identifiée dans le milieu. Enfin, je lui dois beaucoup de choses, je lui dois un peu tout. Et bah non, je trouvais ça trop cool de jouer une fille qui a un super pouvoir nul. Enfin, tout ce que ça génère comme imaginaire et comme fantasme chez un acteur, je trouve qu'il est très fort pour écrire des scènes ludiques. Enfin, moi, c'était vraiment c'est tout ce que j'ai fantasmé sur le personnage, les situations de jeu qui m'ont donné vraiment envie de le jouer. Et après, quand j'ai vu le costume, la coupe graphique, c'est très éloigné de moi. J'adorais, c'est vraiment des personnages de presque de BD, très graphiques, et cette coupe de cheveux, enfin cette chemise, ce fait, cet uniforme de comme dans Où est Charlie, qui a un seul costume. Et d'un coup, à partir de l'épisode 4, je vais avoir une robe méga sexy parce qu'on va jouer au poker. Puis les autres personnages, enfin le personnage de Josh, je le trouve incroyable. C'est une pure idée, je trouve, un personnage d'ancienne star porno qui d'un coup on a trop marre de faire ça. Et en plus ce que ça raconte, c'est bah voilà, à partir de 35 ans, ça y est, pour une femme c'est fini, alors qu'elle est sublime, ça y est, elle tourne plus, c'est une star déchue et qui d'un coup se tourne vers les autres et qui a envie d'aider les gens. C'est hyper intéressant comme personnage. Et le décor était incroyable, enfin la chambre de Joy, le décor est trop bien. Et le rideau rouge qui sépare là où je travaille en tant que coach de vie de l'appartement de Joy, ça me fait penser à Twin Peaks, le fameux, enfin ouais, il y a plein de choses qui sont. Et puis on sait, avec Bruno, comme disait Sabrina, on sait qu'il, voilà, il a un tel univers, il est tellement particulier comme personne qu'on a envie de le suivre.
Pour compliquer la situation, Denise est coach de vie, Sabrina effectivement commence à être au bout de sa carrière de star du porno qu'elle vit assez mal, justement voudrait se reconvertir. Évidemment, la France a tendance à être un peu des étiquettes, donc c'est très compliqué pour elle. Mais qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans le rôle de Joy, justement?
Moi, ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est d'abord, c'est le projet, c'est tout ce que ça raconte, tout ce que ça déconstruit comme fantasme autour de la télépathie et autour de même... Enfin, je trouve que Bruno, il a quelque chose de l'ordre de raconter la complexité de l'âme humaine et de pas être dans quelque chose de binaire avec des personnages, ouais, qui sont hyper profonds, hyper riches, hyper denses et généreux à la fois, même dans quelque chose de non généreux. Mais j'aime son écriture, j'aime son univers, j'aime sa vision. Et effectivement, le personnage de Joy, bah j'ai aimé me dire que c'est quelque chose qui est totalement à contre-courant de ce que j'ai l'habitude de faire, avec un personnage qui est vachement dans la démonstration, vachement extravagante, extravertie. Et moi qui suis très très pudique, bah finalement voilà, de me dire que je vais pouvoir m'amuser avec ce personnage, m'amuser avec les costumes en étant dans une confiance absolue envers mon réalisateur, bah du coup ça permettait un lâcher prise qui était hyper plaisant. Et puis l'évolution de ce personnage, et puis toutes les questions que ça soulève sur la femme, sur le corps de la femme, sur la vieillesse, sur le rejet, sur le désir ou le fait de ne plus être désirable passé un âge, avec lequel je ne suis pas d'accord évidemment, mais en tout cas ça soulève vachement de questions et de réflexions. Et ce personnage qui évolue et qui effectivement est vachement tourné vers elle parce qu'elle a plein de blessures, plein de plaies à penser. Et pour aller un peu justement à contre-courant de tout ce qu'elle a pu vivre, elle a développé une sorte de hyper-sexualité. Et donc, qui tout d'un coup va enlever cette armure et ce déguisement, en fait, qui lui ressemble sans lui ressembler, mais qui est vachement dans un quelque chose de superficiel pour redevenir, se reconnecter à elle-même, à qui elle est profondément, et puis se tourner vers les autres, quoi, enfin.
On va découvrir ça en tout cas. Est-ce que Denise va résister peut-être à lire dans les pensées un jour de Joy ou pas? Ça va être aussi tout le questionnement. Est-ce que ça restera peut-être à jamais le personnage non sondé? C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de ces 6 épisodes. S'il y a une suite, est-ce que vous avez envie d'en faire partie? Est-ce que vous auriez envie de faire une saison 2, Camille?
À fond. Ah ouais, je pense qu'on peut encore explorer.
Il y a plein de choses à raconter pour moi.
Raconter encore. Il a déjà beaucoup exploré, Bruno. Plein dit tout ce que ça peut générer comme idée, la télépathie. Mais ouais, il y a encore plein de choses à faire, ouais.
Bah évidemment, moi j'ai adoré être sur ce plateau, j'ai adoré tourner avec Camille. Je disais que moi j'aimerais faire tous mes tournages de ma vie avec Camille, parce que je l'adore et je l'admire. Et Bruno, bah c'est merveilleux d'être sous sa direction. Et donc j'ai hâte et je suis curieuse de voir ce qu'il pourrait faire avec une deuxième saison. Donc on espère, on croise les doigts.
Extra Lucide, la série à ne pas manquer sur OCS Ciné Plus à découvrir. Donc dès cette semaine, on a déjà hâte en tout cas. Et puis bien sûr, vous pourrez retrouver la série sur Portail My Canal, bien évidemment aussi. Merci à toutes les deux. Merci Camille, merci Sabrina d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et puis j'espère que quand vous irez voir peut-être votre coach de vie, vous n'aurez pas trop peur après. Merci à toutes les deux.
Merci à toi, merci à vous.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous recevrons deux comédiens de la série Plus belle la vie, Jérémy Charvet et Diane Dassigny. On parlera de la série évidemment, mais aussi de musique. On aura le plaisir de parler également du documentaire Bardo. Alors surtout, soyez au rendez-vous.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.